franceinter.fr.
À la une de la science, la formation de la galaxie d'Andromède tout juste élucidée.
De quoi est fait l'univers ? L'univers est essentiellement composé de galaxies, comme un pudding au raisin est composé de raisins. Qu'est-ce qu'une galaxie ? Bien, une galaxie, c'est un système d'étoiles, c'est un système qui contient plusieurs milliards ou plusieurs centaines de milliards d'étoiles comme la nôtre. Alors, ce grand système, eh bien, ça tourne.
La voix merveilleuse d'Hubert Reeves, ce sont des étoiles qui ne tournaient pas tout à fait rond, en tout cas pas de façon aussi régulière que celles qui sont en rotation autour de notre galaxie, la Voie lactée, qui ont conduit des astrophysiciens à se pencher sur la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine. Une équipe franco-chinoise lève le mystère sur sa formation. L'étude est publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et on en parle, Agnès, avec l'auteur principal de cette étude.
François Hammer, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris et dans cette étude, vous nous racontez rien de moins que la nouvelle histoire d'Andromède. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert ?
Alors, la principale découverte, c'est que cette galaxie se forme à partir de la fusion de deux autres galaxies et récemment par rapport à l'âge de l'univers. Il faut penser que l'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années et que l'événement s'est passé entre 2 à 3 milliards d'années.
C'est-à-dire que la Terre était déjà formée quand cette galaxie a fusionné ?
Absolument. Ouais. C'est exactement ce qu'on a pu déduire des mouvements justement des étoiles à l'intérieur de cette galaxie.
S'il y avait eu un être humain sur Terre à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas, hein, on est d'accord, mais si quelqu'un avait été là, il aurait vu quoi dans le ciel ?
Alors il aurait vu quelque chose. La meilleure preuve, c'est que vous pouvez observer Andromède. Ouais. C'est le joyau de l'hémisphère nord.
C'est une, à l'œil nu. Hein.
À l'œil nu, on peut l'observer. De préférence, il vaut mieux l'observer avec des jumelles.
Ouais.
Avec des jumelles, vous pouvez le voir. C'est un objet dont la surface apparente est bien plus grande que celle de la Lune. 4 fois la Lune.
Uh-huh.
Et c'est un des joyaux de l'hémisphère, ouais, de l'hémisphère nord. Donc, il faut le voir lorsque le ciel est particulièrement pur quand même.
Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait vu il y a 3 milliards d'années
lors de... On aurait vu la collision avec une luminosité augmentée d'un facteur à peu près 50. Donc on aurait vu effectivement quelque chose de lumineux dans le ciel à cet endroit.
Non, on a raté le spectacle. Agnès ?
Ce qui vous a mis la puce à l'oreille, à vous et à d'autres chercheurs, François Hammer, c'est le drôle de mouvement des étoiles autour du centre de la galaxie. Daniel en parlait tout à l'heure. Et pourquoi ? En général, c'est un balai qui est parfaitement réglé par chez nous autour de la Voie lactée ?
Oui, absolument. Notre Soleil en particulier tourne autour du centre de la Voie lactée avec une vitesse qui est de l'ordre de 220 km par seconde. Et il y a des petits mouvements un peu au-delà de cette rotation qui font à peu près de 5 à 10 km par seconde. Donc l'essentiel, c'est une rotation. On tourne autour et toutes les 250 millions d'années, on fait un tour.
Et là, dans cette galaxie, c'était...
Alors, cette galaxie, c'est complètement différent et c'est un résultat formidable qui a été trouvé par nos collègues américains. Ça fait 10 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Mmh. Ils ont observé une par une dizaine de milliers d'étoiles sur une surface, vous voyez, qui est 4 fois grande comme la Lune. Et ils se sont rendus compte, en fait, que ces étoiles tournaient effectivement autour à peu près à la même vitesse que le Soleil tourne autour de la Voie lactée, à 220 km par seconde. Mais par contre, avaient des mouvements brusques, des mouvements complètement chaotiques, de l'ordre de 100 km par seconde cette fois. Vous voyez, c'est un peu l'impression, vous avez une rotation comme ça, ou alors vous avez vraiment une rotation extrêmement dispersée. Ce qui fait que l'apparence d'un disque d'une galaxie, hein, c'est un disque qui est tout mince, tout fin. Mais par contre, pour Andromède, la plus grande partie du disque, en fait, est épaisse. On appelle ça un disque épais.
Le disque, c'est quand on regarde la galaxie sur la tranche.
Hein. Exactement.
C'est ce que vous appelez. Mais ça veut dire que cette collision, qui a eu lieu il y a 3 milliards d'années, les étoiles en tremblent encore, en quelque sorte.
Alors, elles en tremblent encore, et d'autant plus que ce sont les plus vieilles qui tremblent. En fait, c'est les étoiles qui existaient à l'époque de la collision qui se retrouvent dans cet état, à cause de cette collision. Et cette collision, c'est une preuve, en fait, que cette collision a bien eu lieu à ce moment-là, parce que c'est seulement les étoiles qui sont plus vieilles que l'époque de la collision qui subissent cet effet-là. Les autres, les plus jeunes, en fait, étaient à l'époque encore sous forme de gaz, elles n'étaient pas encore formées, et ce gaz, lui, s'est formé le long d'un disque complètement mince.
Vous avez fait justement des modélisations d'Andromède, vous avez réussi à reconstituer précisément cette formation et on voit bien les traces des deux galaxies distinctes et des étoiles qui appartiennent à chacune de ces galaxies.
Oui, en fait, maintenant on peut dire qu'on les voit. Mais avant d'avoir fait ce travail, on ne voyait rien du tout. Ouais. C'est souvent ce qui arrive lorsque vous découvrez quelque chose. Vous avez l'impression que c'est évident au moment où vous l'avez découvert. En fait, oui, on voit des traces des galaxies, des deux galaxies progénitrices, en particulier lorsqu'on observe cette fois non plus la galaxie dans son cœur, mais cette fois le halo de la galaxie, les environnements de la galaxie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait dans cette galaxie, on a découvert, et c'est un des auteurs de l'article qui l'a fait, Rodrigo Ibata, qui a découvert un gigantesque courant. Alors pour vous donner la taille de ce courant, c'est à peu près 10 fois la taille d'une galaxie. Vous voyez, c'est un truc immense. Et on ne savait pas trop l'expliquer, interpréter. Et en fait, ce qui se passe, lorsque vous avez deux galaxies qui collisionnent, vous allez avoir des effets, ce qu'on appelle des effets de marée. C'est-à-dire que vous allez avoir des queues de marée, des queues gigantesques de marée qui sont de la matière, des étoiles, qui vont être éjectées de la galaxie, et certaines d'entre elles vont retomber. Et celles qui retombent, on le voit un petit peu, on voit bien dans les animations qu'on a pu produire au cours de l'étude, retombent et font des espèces de boucles. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est ces boucles vues de côté.
Comme des phénomènes météo, un peu.
Un petit peu, oui, c'est un petit peu ça.
Sauf que c'est des pluies d'étoiles.
Voilà.
Et donc ça, vous avez réussi à bien le remodéliser, à bien le reconstituer.
Alors en fait, on a reproduit l'ensemble. Alors, pour reconstruire cet objet, c'était tout un travail, évidemment, parce qu'il y a c'est l'objet le plus observé quasiment, à part notre propre Voie lactée, avec un avantage considérable, nous ne sommes pas dedans.
Et oui,
c'est beaucoup mieux de voir quelque chose dans son ensemble et pouvoir le reproduire. Alors, on a commencé par le centre, le début, on a commencé par le bulbe, la région la plus centrale. Et ensuite, on a passé à peu près pratiquement la moitié de nos simulations, c'est l'équivalent d'un téraoctet, hein, c'est absolument gigantesque.
C'est quoi un téraoctet? Alors, en nombre d'images, par exemple?
En nombre d'images, ça fait plusieurs centaines de milliers, pas loin du million, en fait. Mm-hmm. On a dû aussi retrouver des structures à côté du bulbe qui s'appellent une barre. Alors c'est des structures qui sont assez transientes, qui sont très difficiles à reproduire. On a passé à peu près la moitié du temps à essayer de reproduire ça. Mmh. Et au fur et à mesure qu'on continue à reconstruire, on a reconstruit le disque, on a reconstruit un anneau aussi géant qui faisait 30 000 années-lumière, qui semble fixe dans cette galaxie. Et au fur et à mesure qu'on continuait à reproduire les structures au centre, finalement, les structures au bord commençaient à apparaître. Ouais.
Dernière question, François Hamer. Alors, on comprend que vous avez reconstitué le passé. Est-ce que ça vous permet aussi de prévoir le futur? Finalement, cette galaxie d'Andromède, c'est la plus proche de nous, de la nôtre, de notre Voie lactée. On nous dit que ces deux galaxies fusionneront un jour, entreront elles aussi en collision. Ça aura lieu quand? Ça se passera comment?
Alors, je vais vous décevoir sur les prévisions, parce que les prévisions dépendent en fait de mesures. Ouais. Alors, en fait, notre Voie lactée et Andromède ont des vitesses qu'on appelle vitesses radiales, se rapprochent l'une de l'autre, qu'on mesure parfaitement, très précisément. Par contre, ce qu'on ne sait pas bien mesurer, c'est les vitesses orthoradiales ou tangentielles dans le plan du ciel. Et pour celles-là, en fait, on a des précisions qui sont vraiment très mauvaises. Alors, si vous changez un tout petit peu la vitesse tangentielle, vous changez l'époque, la date de la collision. Et la prédiction que je peux vous donner, vous allez être un peu triste, parce que c'est entre 2,5 milliards d'années et 12,5, voire plus.
Ah oui, effectivement, c'est de la prévision vraiment à la louche.
Il n'y a pas de prévision.
Mais alors, du coup, comment ça va se passer? Si on ne sait pas quand ça se passera, ça aura bien lieu. Alors, on est sûr que ça aura lieu?
Ce qu'on sait, c'est que très probablement, la vitesse tangentielle est inférieure à la vitesse radiale, donc ça doit avoir lieu.
Oui, vous voyez, je vous crois sur parole, voilà. sur cette affirmation.
En fait, on attend des résultats du satellite Gaïa qui vont sortir au mois d'avril de cette année. On espère avoir des premières mesures de ces fameuses vitesses tangentielles.
Bon, on pourra répondre. Il faudra venir nous tenir informés. Merci beaucoup, François Hamer.
Merci.
Et Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, avis de sécheresse, d'inondations et de vagues de chaleur en Europe. Une étude de l'université britannique de Newcastle concernant 571 villes européennes montre que les risques sont plus élevés que prévu pour la période 2050-2100. En se basant sur des modèles climatiques, les chercheurs ont élaboré 3 scénarios plus ou moins graves. La version la plus optimiste, le scénario à faible impact, prévoit une hausse significative de la durée des vagues de chaleur avec une élévation des températures maximales. Quel que soit ces scénarios, les villes plus touchées par les vagues de chaleur seraient Athènes, Nicosie, Prague, Rome et Sofia. Les 5 villes les plus touchées par les inondations seraient Dublin, Helsinki, Riga, Vilnius et Zagreb. Et enfin, les 5 villes les plus affectées par les épisodes de sécheresse, selon cette étude, seraient Athènes, Lisbonne, Madrid, Nicosie et Sofia. L'armée américaine recrute des informateurs dans les fonds marins. Un nouveau programme baptisé Capteur aquatique vivant et persistant veut utiliser les capacités de détection des organismes vivants pour surveiller le littoral américain. La plupart des espèces marines sont très performantes pour sentir les mouvements, les odeurs, les bruits et les vibrations. Il s'agirait donc de suivre les déplacements des animaux pour en déduire la présence de véhicules sous-marins ennemis près des côtes. Ce programme, qui devrait durer 4 ans, ne détaille pas encore les technologies qu'il utiliserait. Et on reste dans les fonds marins avec cette question. Certains poissons seraient-ils dotés d'une lampe de poche naturelle dans les yeux? Des chercheurs se sont intéressés à la petite étincelle qu'on aperçoit parfois dans le regard des Tripteridae, une espèce de poisson de la taille d'un pouce. Et les scientifiques se sont aperçus que ces animaux étaient capables d'activer cette petite lumière selon les contextes, en particulier lorsqu'ils sont en présence de proies. L'étude est à lire dans la revue Royal Society Open Science.